Bonjour, Marco, compte à rebours. Compte à rebours, la plus vieille émission. Non, j'exagère. Ça fait un moment que ça dure, mais en fait. La légendaire émission de compte de radio CFM que tout le monde veut écouter et qu'on peut écouter en dehors de la radio même, en allant sur le site de CFM et dans les podcasts, comme on dit, c'est-à-dire les émissions précédemment enregistrées. Il y en a au moins 200 qui sont réécoutables gratuitement. Et bien oui, Compte à rebours, c'est une émission de contes. Si vous ne l'aviez pas compris, ce sont des histoires de toutes sortes. Et aujourd'hui, on a des contes qui vont très bien avec ce générique, puisque ce générique est d'origine japonaise, et les contes aussi sont d'origine japonaise. Et je les ai trouvés dans un livre des éditions Piquier Poche, Contes d'une grammaire japonaise. Aujourd'hui, on va commencer tout simplement par des récits mythologiques. Vous connaissez sans doute la culture japonaise, ou peut-être pas. Vous connaissez l'importance là-bas qu'ont les kami. Eh oui, kami, comment on pourrait le traduire ? C'est ce qui est placé au-dessus de soi et que l'on vénère. Et c'est pas forcément un dieu. Hein, c'est un esprit, il y a le kami pour n'importe quelle source, n'importe quelle montagne, il y a des kami partout, hein, sur les îles du Yamato, qui sont les îles du Japon. Alors, bien sûr, ces kami font l'objet de cultes consacrés pour l'essentiel aux divinités de la nature. Et l'ensemble de ces cultes constitue ce qu'on appelle, allez, c'est la leçon, de le shintoïsme. Oui, la voie des dieux. C'est une religion primitive et endogène du Japon, on ne la trouve que là, le shintoïsme, qui voue l'essentiel de son culte aux divinités de la nature, dont le soleil, hein, incarné par la grande divinité céleste, Amaterasu ou Mikami. Et je vais vous donner quelques extraits de ces mythes. Ces mythes qui ont fixé aussi, parce que faut voir que le shintoïsme a été donc une religion d'État en quelque sorte, hein, et même la généalogie impériale commence dans ces récits mythologiques. Donc c'est à la fois la source de tous les rituels shintoïstes et le fondement de l'État.
ました私が下から南に西東に響き渡れと声限り歌いました数々を時間来るまであ勤めましょう
Izanagi et Izanami. Il est dit dans le Kojiki qu'au commencement du ciel et de la terre, trois divinités se formèrent dans la plaine des hauts cieux. Il est dit encore qu'elles naquirent d'elles-mêmes, puis se cachèrent. Vinrent ensuite née d'une chose qui jaillit telle une pousse de bambou, deux autres divinités qui se cachèrent elles aussi. Ainsi se créèrent plusieurs générations divines, jusqu'à la septième, formé par le couple d'Izanagi, celui qu'on invite, l'époux, frère, et Izanami, celle qui invite, l'épouse, sœur. Comme la terre qui venait de naître était pareille à de l'huile flottante et voguée comme une méduse, les kami du ciel ordonnèrent. Charge à Izanagi et Izanami de donner forme à ce chaos, de faire émerger de cette terre mouvante, aussi fluide et inconsistante qu'une nappe d'huile flottante, aussi nébuleuse, translucide et mouvante qu'une méduse, faire émerger les îles du Yamato du Japon, pour ensuite les peupler et les féconder. Ayant reçu cet ordre, Izanagi et Izanami s'aventurèrent sur le vertigineux pont flottant du ciel. Et là, à l'aide des lances précieuses, Hoko, offertes par les kami du ciel, ils se mirent à remuer tout en bas les eaux océanes où, visqueux, surnageait le magma endormi de la terre. Ce barattage de leurs lances tournant en large cercle dura longtemps, bien au-delà de la fatigue de leurs bras divins, jusqu'à ce que cette masse molle, ainsi malaxée, brassée, émulsionnée, commença doucement à épaissir. Quand Izanagi souleva enfin sa lance, de la pointe de celle-ci retomba lourdement la première goutte qui tout aussitôt se solidifia, puis se pétrifia pour former la première île, Onokoro, signifiant coaguler naturellement. Ce que voyant, Izanagi et Izanami s'engagèrent prudemment sur le plomb flottant du ciel et descendirent sur l'île d'Onokoro pour éprouver du pied sa solidité. Ferme, elle l'était, et tout autour, l'océan la frangeait de sa salive écumante sans l'entamer ou la faire vaciller. Une fois sur l'île, ils suscitèrent un pilier sacré et un palais à l'image de ceux qu'habitaient les kami du ciel. Ceci accompli, ils se contemplèrent, chacun reflétant la beauté de l'autre, le désir de l'autre, sans savoir réellement comment faire. Lorsqu'ils aperçurent non loin d'eux un couple de bergeronnettes en train de s'accoupler par voluptueuses saccades, Izanami dit alors à son époux et frère qu'il manquait à son corps une partie pour être complet. À quoi Izanagi répondit à son épouse et sœur qu'il avait lui une partie en trop. Ils décidèrent alors de s'unir dans le but d'engendrer d'autres générations divines et d'autres terres. Mais auparavant, pour leurs noces, ils convinrent d'un rituel. Izanami ferait le tour de la colonne sacrée par la droite, Izanagi, lui, par la gauche, pour ensuite se rejoindre et ne faire plus qu'un, imitant ainsi les oiseaux. La colonne contournée, Izanami, découvrant un Izanagi muet d'admiration devant elle, ne put s'empêcher de s'exclamer avec une sensuelle assurance avant de s'unir à lui. Quel bonheur de rencontrer un aussi beau jeune homme! Mais d'être apostrophé de la sorte, Izanagi en conçut un secret déplaisir. De cette étreinte devait naître un monstrueux enfant sangsu, pourvu d'une bouche à trois mâchoires, avide de sang et d'un corps rouge de serpent, que ni l'un ni l'autre ne voulurent reconnaître. L'ayant tendrement déposé dans un esquif de roseaux, ils l'abandonnèrent au flot tumultueux de l'océan. Après quoi, empruntant de nouveau le vertigineux pont de l'arc-en-ciel, Izanagi et Izanami regagnèrent la plaine des hauts cieux afin de rendre compte de cette naissance malheureuse aux Kami célestes. Ceci, après avoir brûlé des omoplates de daim mêlés à du bois, livrèrent le résultat de leur divination. Ce n'était pas bien que la femme parle la première. Retournez, descendez et recommencez tout. Le couple redescendit donc sur terre. Et une fois le rituel correctement accompli, Izanagi et Izanami générèrent alors les 8 plus grandes îles du Japon, tandis que de l'écume de l'océan jaillissaient les autres îles de l'archipel et de lointaines terres étrangères. S'étant abîmé dans la contemplation de cette majestueuse succession d'îles qu'il venait de créer, encore enveloppées dans les brumes du premier matin du monde, Izanagi exhala un profond soupir qui engendra le kami du vent, suivi des kami des montagnes, de la mer et des arbres. Puis, comme lui et son épouse, Izanami soudain ressentaient la faim, ils engendrèrent le kami du riz. Le dernier kami à naître des entrailles d'Izanami fut Kagotsushi no kami, celui du feu. Mais hélas, mille fois hélas, en venant au monde, il brûla irrémédiablement sa mère. Izanagi, désespéré, voyant sa bien-aimée se tordre sur le sol dans d'atroces souffrances, comprit qu'elle allait mourir. De ses vomissements, de son urine et de ses excréments, avant qu'elle n'expire, devait naître encore le kami de l'eau, le kami de la terre et d'autres dieux. Finalement, elle mourut. Auprès de son cadavre, Izanagi se mit à se lamenter. Cependant que de ses larmes naissait le kami du ruisseau gémissant et d'autres dieux encore. Privé de sa sœur et épouse bien-aimée par la naissance de Kagotsushi no kami, Izanagi, fou de douleur, se saisissant de son épée, décapita ce fils responsable de la mort de sa mère, puis trancha l'enfant en 8 morceaux. D'où naquirent 8 dieux différents, symbolisant les 8 montagnes vénérées du Japon. Cependant, le sang du kami du feu giclant jusqu'au séjour des kami célestes retombait en pluie dans le lit du vaste fleuve arrosant la plaine des hauts cieux pour devenir le fouillis d'étoiles de la Voie lactée. Or donc, inconsolable de la mort de son épouse, Izanagi descendit la chercher aux enfers. Tout plein du souvenir de son corps radieux aux courbes délicates, déterminé à la retrouver coûte que coûte, il s'enfonça bravement dans les terrifiantes ténèbres du monde souterrain de Yomi. Au bout d'un temps interminable, il finit par reconnaître Izanami à sa voix, sans toutefois pouvoir l'apercevoir dans cette obscurité totale. Alors, comme si ces mots étaient autant de filets lancés à travers la nuit infernale dans sa direction, il se mit à la prier tendrement de remonter avec lui vers le monde des vivants. « Pourquoi avoir tant tardé à venir me chercher ?» lui reprocha-t-elle. J'ai eu le temps de goûter à la nourriture impure qui me lie à jamais au monde des morts. Je ne puis désormais revenir vers la lumière avec toi. » Izanagi, dans sa détresse, n'en continua pas moins, tantôt de la supplier avec ferveur, tantôt de la blâmer avec colère pour son obstination, puis de la supplier encore, si bien que de guerre lasse, Izanami finit par lui proposer d'aller en discuter avec Maga Tsuhi, le dieu des enfers. Elle y mettait toutefois une condition expresse. Kizanagi s'abstienne de pénétrer à l'intérieur de sa demeure pour tenter de la voir. « Soit, j'accepte, » dit Kizanagi. Mais la tante devait avoir raison de sa patience. Se saisissant du peigne avec lequel il démêlait ses longs cheveux, il en brisa deux dents à une extrémité, l'enflamma et s'en servant comme d'une torche, pénétra dans le palais, mettant en fuite des hordes de démons. Là-bas, dans l'une des chambres, il aperçut une forme allongée vaguement familière. S'en étant approché, malgré l'odeur immonde, aux lueurs de sa torche, il découvrit avec un haut le cœur le corps putréfié d'Izanami, tout gonflé et verdâtre, grouillant de verre et exhalant par mille cratères des gaz pestilentiels, véritable charogne gardée par les huit dieux du tonnerre qui bavaient copieusement sur elle. Avec un hurlement d'horreur, il se sauva, épouvanté, poursuivi par les imprécations d'Izanami. « Tu m'as humilié !» et les vociférations des huit chicomées, les filles laides des enfers qu'elle venait de lancer à ses trousses. À travers les ténèbres répugnantes, poursuivies par les huit femmes hideuses, Izanagi courait à perdre haleine, leur lançant en pâture pour tenter de les distancer d'abord sa ceinture qui se changea en une lourde grappe de raisin noir qu'elles avalèrent sur le champ, sans ralentir pour autant. Alors, il leur jeta son peigne, dont les nombreuses dents se transformèrent immédiatement en pousses de bambou, qu'elles arrachèrent et dévorèrent, et le peigne ainsi brisa leur élan. Izanagi, parvenu au bas de la pente des enfers, serait bientôt hors d'atteinte. Ce que voyant, Izanami rameuta les huit dieux du tonnerre, puis les guerriers des enfers. Izanagi les dispersa un moment en leur jetant des pêches trouver un chemin. Alors, Izanami se mit à le prendre elle-même en chasse. Mais Izanagi avait assez d'avance pour s'arrêter, uriner contre un arbre, créant ainsi entre lui et ses poursuivants un grand fleuve. Rien n'aurait pu cependant arrêter Izanami déchaîné qui, haletante, bondissait déjà derrière Izanagi. Mais, trop tard, il venait juste d'obstruer la sortie des enfers avec un lourd rocher. De part et d'autre du rocher, le dieu Izanagi dans le monde des vivants et la déesse Izanami dans celui des morts firent alors le serment solennel de se séparer à jamais. À cet instant, dans la pure lumière de la vie, Izanagi sentit dans son esprit et sur son corps toute l'immonde souillure qu'il rapportait du séjour des morts. Et il gagna au plus vite l'île de Tsukushi, afin de se purifier dans les eaux transparentes de la rivière de Tachibane, puis dans les vagues de la mer. Dégoûté, il jeta d'abord son bâton qui engendra le dieu érigé à la bifurcation des chemins, puis se dépouilla de ses vêtements qui engendrèrent d'autres divinités. Il plongea ensuite dans la rivière et les impuretés des enfers en se dissolvant dans l'onde donnèrent naissance aux dieux de différentes maladies. Après quoi, il alla se baigner dans la mer et de ses lustrations naquirent encore différents kami. Ensuite, s'étant lavé l'œil gauche, il fit naître la grande déesse du soleil, Amaterasu. Puis s'étant lavé l'œil droit, il fit naître la déesse de la lune, Tsukiyomi. Enfin, s'étant lavé le nez, empuanti par l'atroce odeur des enfers, il fit naître le dieu Susanoo. Offrant alors à sa fille aînée, Amaterasu, déesse du soleil, son collier sacré de joyaux, il lui confia le royaume de la vaste plaine céleste. À la déesse de la lune, il confia le royaume de la nuit. Et au dieu Susanoo, il confia la plaine des mers et la terre. Alors que ses sœurs allaient prendre possession du royaume du ciel et du royaume de la nuit, Susanoo accepta avec force Jérémiade et lamentation de gouverner la terre. Sans cesse, il négligeait ses charges, récriminait et s'élevait violemment contre son père. Sommé par le dieu Izanagi de s'expliquer, il répliqua que ce royaume terrestre n'était point de son goût et qu'aussi bien, il préférait rejoindre sa mère au pays des ténèbres. « Que cela ne tienne !» s'écria furieux le dieu Izanagi. « Je te chasse, j'exauce ton vœu, va donc rejoindre ta mère !» Avant de gagner le Yomi, Susanoo déclara qu'il souhaitait aller dans la plaine des hauts cieux saluer sa sœur aînée, la déesse Amaterasu, et prendre congé d'elle. Connu sans doute cette musique, la dernière, Yuku Hiro Goto, bien sûr. Il y avait aussi des musiques, je ne vais peut-être pas vous dire tous les noms, hein. Michihiro Sato, que vous avez peut-être reconnu, dans Nikata Bucci, bref, tout un tas de noms japonais pour ces musiques japonaises, pour ces histoires japonaises, mais qui ne sont pas finis, oui. Le dieu Susanoo, qui doit aller rejoindre sa mère aux enfers, mais qui veut d'abord aller voir sa sœur là-haut, eh bien, n'a pas fini de faire des bêtises, vous verrez. Et donc, ce sera la semaine prochaine. Voilà, eh bien, pour le moment, je vous dis, c'est fini. Hein, et à la prochaine fois, c'était Marco, compte à rebours. Ciao.